Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mes chers camarades, bien le bonjour. Il est toujours très compliqué de choisir quand on nous demande notre Disney préféré. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un consensus pour dire que certains sont, quoi qu'il arrive, dans le haut du panier. Et dans cela, il y a évidemment Mulan. Avec une histoire qui déchire, une bande-son qui déchire, une héroïne qui déchire, des envahisseurs qui déchirent, bref, ça déchire. Vous le savez sans doute, ce dessin animé s'inspire du folklore chinois. Et ça tombe bien, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette histoire et ses interprétations. Vous êtes prêts pour découvrir la véritable histoire de Mulan ? C'est parti !
Ladies and gentlemen, the story you are about to hear is true.
L'histoire de Mulan, prononcée Mulan, raconte comment une jeune fille se déguise en garçon et part à la guerre pour remplacer son père, appelé aux armes par le souverain. Cette légende trouve son origine dans un poème anonyme, une ballade de 68 vers écrite au 6e siècle de notre ère sous la dynastie des Wei du Nord. Le nom de la jeune fille, Mulan, n'apparaît pas dans le poème, il est simplement dans le titre. Histoire très célèbre en Chine, elle a été l'objet en 1998 d'un dessin animé par les studios Disney, puis d'une suite. Et en 2020, d'un film, toujours par Disney, très critiqué non seulement en Occident, mais aussi en Chine pour des raisons différentes. En plus des erreurs historiques nombreuses, ce qui a choqué en Chine, c'est le sens donné à l'histoire par la réalisatrice, Nikki Caro, qui est un contresens total par rapport au fond d'origine de cette histoire. En brodant autour de la notion de Tsi, le souffle vital qui anime les êtres vivants, qui ne serait que l'apanage des hommes, la version filmée de Disney fait de Mulan une héroïne féministe bien décidée à prouver qu'une femme vaut autant qu'un homme et à combattre les injustices touchant son genre. On est d'accord, c'est bien, le message est positif. Mais ça n'a rien à voir avec le sens premier du poème. Dans l'histoire originale, Mulan n'est en rien une héroïne féministe. Même si elle l'est devenue en Chine au XXe siècle, mais pas dans l'esprit de Disney. Elle est au départ l'illustration et l'incarnation d'une vertu chère à Confucius, la piété filiale, Xiao en chinois. Courageuse, Mulan l'est, on ne peut pas lui enlever. Et si elle brave un interdit, celui d'aller à la guerre à la place de son père, qui est un rôle dévolu en théorie à un fils, ce n'est pas, au départ, un acte féministe. C'est un acte d'amour filial pour son père, trop âgé pour combattre et incapable de se faire remplacer par son fils, car celui-ci est trop jeune. Si on s'intéresse un peu au contexte historique de la production de cette histoire de Mulan, on s'aperçoit qu'elle a été écrite sous une dynastie non chinoise, contrôlée par des souverains issus des steppes du Nord, aux origines communes aux Turcs et aux Mongols, d'où l'appellation de population turco-mongole, où le statut des femmes était plus élevé que dans la stricte tradition chinoise. Mais avant d'aller plus loin, revenons d'abord aux origines de l'histoire et tournons-nous vers le poème dont est issu le personnage de Mulan. Le poème nous raconte qu'une jeune fille, Mulan, est en train de tisser, une activité banale pour l'époque. Soudain, elle se met à pleurer, et le narrateur explique qu'il ne s'agit pas d'un dépit amoureux. Elle ne pense pas à un garçon, contrairement à beaucoup de jeunes filles dans les poèmes de cette époque. La parole est ensuite donnée à Mulan, qui explique que le Khan, c'est-à-dire l'empereur des Wei du Nord, lève une armée pour faire la guerre. Sur les documents officiels ordonnant la mobilisation des hommes figure le nom de son père. Il est donc mobilisé et doit partir, ou, à défaut, son fils aîné, ce qu'on comprend par la suite, même si ce n'est pas indiqué clairement dans le texte. Or, Mulan est l'aînée. Elle n'a pas de grand frère et n'a qu'un frère cadet sans doute trop jeune pour partir. Elle jure donc de se procurer le nécessaire, un cheval entre autres, les équipements n'étant pas fournis par l'État, pour partir à la place de son père. Elle se rend dans 4 marchés de la ville et s'achète respectivement cheval, bride, selle et fouet. Le poème ne mentionne aucun autre équipement militaire, mais tout ça reste un poème. En réalité, il y a un parallèle à faire entre les 4 marchés et les 4 points cardinaux, une manière de dire qu'elle s'est rendue dans beaucoup d'endroits pour s'équiper. Ensuite, elle part au combat et guerroie de bataille en bataille durant 10 longues années, pendant lesquelles de nombreux généraux meurent. Au bout de 10 ans, les braves encore vivants rentrent au pays et sont reçus au palais par le Fils du Ciel, l'empereur et Khan de Chine, qui demandent à chacun d'entre eux ce qu'ils veulent en leur offrant titres, charges et pièces d'or. Mulan est interrogée. et ne souhaite qu'une chose, pouvoir rentrer chez elle. On avertit alors sa famille que Mulan est de retour. Ses sœurs se font belles, son frère tue un mouton et un cochon pour le banquet, ses parents l'attendent à la porte. Mulan revient, ôte son habit militaire et remet ses robes de fille. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend que Mulan n'avait sans doute jamais dit à ses compagnons de guerre qu'elle était une fille. Et pour cause, elle n'aurait probablement jamais pu remplacer son père si les cadres de l'armée l'avaient su. Le poème se termine en usant d'une métaphore. « Rien ne permet de distinguer le lièvre de la hase lorsqu'ils courent côte à côte. » La hase étant la femelle du lièvre. Rien donc ne permet de distinguer un soldat et une soldate quand ils guerroient côte à côte revêtus des mêmes armures. On le voit donc, le poème est assez simple, donne peu de détails. On ne connaît ni le nom de famille de Mulan, ni son contexte familial précis. On ne sait même pas sous le règne de quel souverain se déroule l'histoire. Cela dit, on sait d'une part que l'histoire se passe dans le nord de la Chine, le poème évoque le fleuve jaune à proximité, et d'autre part, le fait que l'empereur soit également appelé le Khan, qui est un titre de monarque utilisé par les peuples des steppes du nord comme les Mongols et leurs ancêtres. Ce qui laisse entendre que l'histoire se passe sous une dynastie non chinoise, sans doute celle des Wei du Nord, qui règne en Chine de la fin du IVe siècle jusqu'au milieu du VIe. Mais qui est cette dynastie des Wei du Nord ? Les Wei sont une dynastie étrangère qui mêle aux traditions guerrières de la steppe les habitudes lettrées et raffinées des cours chinoises. Elle marque la Chine par de nombreuses réalisations artistiques bouddhiques. C'est ce contexte particulier qui permet l'apparition de l'histoire de Mulan où une femme part faire la guerre. Car chez les Wei du Nord, les femmes, et notamment celles de l'aristocratie au pouvoir, jouissaient d'un statut plus élevé que celles des cours chinoises du Sud. Les Wei du Nord sont installés officiellement en 386 lorsqu'un chef d'un peuple nommé Tuoba se proclame empereur. Il conquiert une multitude de petits états et chefferies qui s'étaient développés dans le nord à la suite de la chute de la dynastie chinoise des Xin en 317. À partir de cette date, les Xin ne contrôlent plus que le sud-est de la Chine. En 398-399, les Wei, dont la capitale était située très au nord de la Chine, à Shangle, la déplacent plus au sud sur l'emplacement actuel de Datong, à un peu moins de 300 km à l'ouest de Pékin. En 439, ils unifient totalement le nord sous leur autorité. Selon les empereurs qui se succèdent sur le trône, ils oscillent entre des valeurs se rapprochant plutôt des steppes ou plutôt de la Chine, et parfois, ils mélangent un peu des deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'on comprend au travers des sources qui nous ont été transmises que les femmes de l'aristocratie Tuoba jouissaient d'une liberté de mouvement bien plus importante que les femmes chinoises. On n'a cependant rien qui nous indique qu'elles prenaient les armes et allaient à la guerre, et pour le coup, les chefs les tenaient éloignées du pouvoir. On a même une tradition qui voulait que lorsque le prince héritier était choisi, sa mère soit mise à mort, sans doute afin d'empêcher que celle-ci ne profite par la suite de sa position d'impératrice-mère pour capter le pouvoir. Cela dit, plusieurs fois sous les Wei du Nord, des impératrices relativement puissantes se sont imposées. Quant à la guerre mentionnée dans le poème, plusieurs théories ont été proposées. L'une d'elles l'identifie à une guerre qui a eu lieu en 429 et qui opposa les Wei du Nord de l'empereur Taiwu aux Jojan, un peuple nomade qui avait établi un khanat au nord de la Chine entre les 4e et 6e siècles. Pour résumer, Mulan serait la fille aînée d'un ancien général des Wei du Nord qu'on appelle sous les drapeaux pour lutter contre les Jojan. On ne sait pas si Mulan est issue d'une famille chinoise ou Tuoba, mais certains chercheurs ont avancé que le poème était une adaptation chinoise d'une chanson écrite à l'origine en langue Tuoba. Quoi qu'il en soit, les premiers lecteurs chinois n'y ont pas vu l'histoire d'une guerrière féministe, mais celle d'une jeune fille de bonne famille qui accomplit son devoir de fille. Et ça diffère un peu des interprétations modernes qu'on a de Mulan, donc. Dans le poème d'origine, Mulan ne cherche pas à s'émanciper d'un carcan ou à prouver qu'une femme est aussi digne qu'un homme, même si cette idée a fini par faire son chemin dans les adaptations modernes de l'histoire. Il y a certes dans le poème une duperie dans laquelle une femme accomplit une mission normalement réservée à des hommes, mais on peut dire que c'est pour la bonne cause. Lorsqu'il est protégé par une armure, on ne peut distinguer si un soldat est une femme ou un homme. Et le travestissement de Mulan a bien fonctionné, puisqu'elle a dupé l'armée qui l'a recrutée à la place de son père, l'empereur tout comme ses compagnons proches, ceux qui l'ont accompagnée chez elle et qui l'avaient côtoyée durant une quinzaine d'années. Les quatre derniers vers du poème insistent sur l'idée qu'une fois au combat, on ne peut distinguer deux soldats, hommes et femmes, en usant d'une métaphore mettant en scène le lièvre et la hase, la femelle du lièvre. Le lièvre, pour s'asseoir, met ses pattes sous lui, et les yeux de la hase ont des regards ardents. Mais quand tous deux ensemble vont courant côte à côte, qui saurait distinguer le lièvre de la hase ? La morale de l'histoire est que finalement, Mulan retourne à sa condition féminine. Elle reprend ses robes, remet son maquillage et ne cherche plus à se faire passer pour un homme. Son travestissement n'était qu'une circonstance comme une autre pour celle qui voulait simplement accomplir sa mission de fille pieuse. L'histoire de Mulan connaît, à partir du XVIe siècle, un développement sans précédent, parce qu'elle est adaptée pour la première fois sous forme d'une pièce de théâtre. Il faut savoir que les pièces de théâtre dans la Chine traditionnelle s'apparentent à des opéras. Ce sont des sortes de singspiel, ou d'opéras comiques à la française, où vont s'enchaîner des parties chantées et des parties parlées. L'opéra chinois est marqué par une codification très complexe qui encadre les vêtements, les maquillages, les costumes, les postures et les gestuels des acteurs. Le genre le plus connu est l'opéra de Pékin, un genre qui apparaît dans le film « Adieu ma concubine » en 1993. Mais il existe en Chine de nombreux types d'opéras locaux qui diffèrent notamment par la musique, la langue chantée et d'autres éléments. Au XVIe siècle donc, sous la dynastie des Ming, connue non seulement pour ses vases, mais aussi, entre autres, pour un intense déploiement de l'opéra, l'histoire de Mulan est adaptée sous la plume, ou plutôt le pinceau, du dramaturge et peintre iconoclaste Su Wei. L'opéra s'intitule « La femme Mulan remplace son père à la guerre » et fait partie d'un ensemble de quatre courtes pièces réunies dans un recueil intitulé « Le gibbon aux quatre cris » et dont deux, parmi lesquelles celle sur Mulan, porte sur la thématique du travestissement. L'autre pièce liée à ce thème raconte comment une fille se déguise en homme pour passer les concours mandarinaux. Su Wei conserve le squelette de l'intrigue du poème original de Mulan et invente quantité de détails afin de donner vie non seulement au personnage de Mulan, mais aussi à tous ceux qui l'entourent, sa famille jusqu'aux militaires qu'elle va côtoyer. Il donne à Mulan le nom de famille, roi, prononcé Fa dans les Disney, et son père, alors qu'elle est enfant, lui apprend le kung-fu. Celui-ci est appelé à la guerre et Mulan veut le remplacer. Pour ce faire, elle débande ses pieds bandés, nous dit le texte, ce qui est un anachronisme pour l'époque puisque la coutume des pieds bandés n'apparaît pas avant le Xe siècle, soit près de 6 siècles après l'époque où était censée vivre Mulan. Comme dans le poème, elle s'équipe elle-même, à la différence près qu'elle s'achète non seulement son cheval, mais aussi ses armes. La seule crainte de sa mère, car sa mère est au courant, c'est que Mulan soit démasquée lorsqu'elle effectue sa toilette, chose qu'on remarque dans l'adaptation de Disney d'ailleurs. Mulan part guerroyer, son camp est victorieux, et le souverain lui donne une charge dans la haute administration. Lors d'un congé, elle retourne voir ses parents et sur la route croise deux capitaines qui ne découvriront qu'à la toute fin qu'elle est une femme. Dans la pièce de Su Wei, Mulan finit par se marier à un homme qui a entendu parler de son histoire et en tombe amoureux. Ainsi, tout rentre dans l'ordre confucéen, d'une certaine manière, puisque Mulan retourne à son destin d'épouse. Dans la pièce de Su Wei, Mulan n'est pas encore une héroïne vraiment féministe. Elle reste dans l'illustration de la vertu de la piété filiale, même si l'intrigue du travestissement permet de raconter un beau récit et que c'est parce qu'elle a accompli sa mission en remplaçant son père qu'un prétendant s'intéresse à elle. La pièce de Su Wei n'est plus jouée, mais l'histoire de Mulan a été adaptée dans d'autres genres d'opéra, et notamment au XXe siècle, dans le genre de l'opéra de Yu, en 1951, 2 ans après la fondation de la République populaire de Chine et sur fond de guerre de Corée. Et c'est à cette époque que Mulan devient enfin une héroïne féministe. L'air le plus célèbre de l'époque a pour titre « Qui a dit que les femmes ne valaient pas les hommes ?» Déguisée en soldat, Mulan répond à un autre soldat et prend la défense des femmes en affirmant que sans le travail des femmes à la maison, les soldats n'auraient rien à manger ni rien à porter sur eux, puisque ce sont des femmes qui, en plus du travail des champs, cuisinent et cousent les habits. Et certaines sont par ailleurs de valeureuses soldates. Et là, Mulan est résolument féministe. Pourquoi donc au début des années 50, Mulan est-elle devenue une héroïne prônant la défense des femmes ? Eh bien, tout cela est lié au contexte socio-politique du début des années 1950, qui vit une réelle volonté du nouvel État chinois d'améliorer le statut des femmes qui, traditionnellement en Chine, étaient inférieures à celui des hommes. Précisons que, malgré une loi datant de 1930, la polygamie, traditionnelle en Chine parmi l'élite, n'est réellement interdite qu'en 1950, par le nouveau pouvoir communiste. Et à Hong Kong, ce n'est qu'en 1971 que la polygamie fut déclarée hors la loi. L'une des premières mesures de la République populaire est de s'attaquer à l'analphabétisme. Il faut savoir qu'à la fondation de la République populaire de Chine, en 1949, 80% de la population était analphabète. 15 ans plus tard, en 1964, le taux d'analphabétisme était descendu à 52%. En 1978, il était de 25%. Aujourd'hui, de 3,4%. Une politique très active a été mise en place dès la fondation de la République populaire, avec la création de classes destinées aux adultes, hommes comme femmes. Une célèbre chanson de propagande, intitulée « L'époux et l'épouse apprennent à lire », date précisément de cette époque. Cette politique d'alphabétisation à marche forcée touchait les campagnes, les milieux ouvriers et également les milieux urbains, dont les femmes au foyer. Et c'est bien normal, parce que les femmes au foyer étaient un relais important de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, puisqu'elles s'occupaient des enfants. Il fallait aussi faire comprendre aux hommes que les femmes valaient autant qu'eux, et méritaient d'apprendre à lire et à écrire, ce qui n'était pas une évidence dans certains milieux traditionnels et conservateurs. La chanson où Moulin clame haut et fort que les femmes sont aussi dignes que les hommes s'inscrit totalement dans ce mouvement et explique pourquoi elle est utilisée comme un symbole par la propagande. Tout le monde connaissait l'histoire de Moulin, même sans connaître le poème. Et le fait que ce soit elle, la plus célèbre guerrière de la Chine ancienne, qui clame haut et fort que les femmes sont les égales des hommes, a sans doute eu un impact non négligeable sur les masses populaires des années 1950. Dans les décennies qui suivent, Moulin a fait l'objet de séries télévisées et de films et demeure encore un sujet inspirant en Chine et dans le monde chinois, comme le montre le fait que la chanson « Qui a dit que les femmes ne valaient pas les hommes », citée tout à l'heure, ait été chantée lors d'une grande messe télévisuelle à l'occasion du Nouvel An chinois de 2021. Autant vous dire que la légende de Moulin n'est pas près de s'épuiser et on verra peut-être son personnage porter d'autres messages dans le futur. Lesquels ? Eh bien ça, l'avenir nous le dira. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochains. Merci à Damien Chaussande, historien de la Chine et chercheur au CNRS, pour la préparation de cette émission. Et merci à Studio Pluriel pour la technique. On se retrouve très bientôt sur Nota Bene. Salut.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant, que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez même nous laisser une note et, soyons fous, un petit commentaire, je le lirai avec plaisir.